Bezrat Hashem, donc la page 290, ici. Et on va commencer la lettre numéro 27. Donc à l'occasion de Gimel Tammuz, ce Shabbat, Gimel Tammuz, c'est le jour de la Hiloula du Rabbi. Et donc Bezrat Hashem, le cours de cette semaine et de la semaine prochaine, et peut-être encore après, mais déjà au moins celui de cette semaine et de la semaine prochaine, sera dédié autour du concept de la Hiloula. Alors la lettre qu'on va étudier ici, la lettre numéro 27, donc je sais que j'ai sauté quelques lettres, on n'était pas à la lettre 27. Je suis passé à la lettre 27, puisque cette lettre, c'est une lettre que l'Admour Hazaken a écrite au Chassidim après le départ de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Alors je vais vous parler un petit peu de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. On a eu le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, dès qu'il est parti de ce monde, il a été remplacé par son fils, Rabbi Tzvi. Son fils, un an plus tard, il a pris conscience qu'il n'était pas fait pour ça. Enfin, pas qu'il n'était pas fait pour être sadique, mais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient plus adaptées que lui pour cette mission. Donc, à la prochaine Hiloula, il a donné le poste au Magui de Meserich. Il a dit, s'il te plaît, prends le poste du ciel, on m'a dit qu'il faut que je le donne, et moi je sens que je ne suis pas fait pour ça. D'accord ? En toute humilité. Donc, un an après la Hiloula du Baal Shem Tov, on a donné le poste au Magui de Meserich. Le Magui de la ville de Meserich, donc il a duré pendant quelques années, je ne sais pas exactement combien d'années. Ensuite, il est parti de ce monde. Quand il est parti de ce monde, celui qui a pris le poste, c'est-à-dire, quand je dis le poste, c'est-à-dire que chacun, dans chaque ville, il y avait des rabbanim et des admorim, etc., comme on a aujourd'hui, mais il y avait toujours un chef. C'était comme ça à l'époque. Le Baal Shem Tov avait instauré comme ça. Et donc, on a dit le Baal Shem Tov, qui a été remplacé par son fils, qui a été remplacé juste après par le Magui de Meserich, dès que le Magui de Meserich est parti de ce monde, il a été remplacé par Rabbi Menachem Mendel de Horodok. C'est le premier Menachem Mendel. D'accord ? Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui lui a remplacé donc le Magui de Meserich. Il était déjà d'un certain âge. Ils ont essayé ensemble, c'était une époque dans laquelle la marloquette qu'il y avait entre les chassidim et les mitnagdim était très très forte. C'était un des moments les plus forts. Et Rabbi Menachem Mendel de Horodok et l'Admour Hazaken, qui était donc beaucoup plus jeune, ont essayé de parler à différentes personnes, ils ont essayé de rencontrer le Gaon de Vilna, ils ont essayé de faire plusieurs choses. Bon, il y a eu à chaque fois des bâtons dans les roues. Chaque fois, il y avait des gens qui racontaient des choses, et chaque fois, concrètement, ça n'a pas pu se faire. Ils sont même partis jusqu'à Vilna, ils sont même arrivés jusqu'au Beth Amidrash, et après, on a raconté quelque chose au Gaon de Vilna, et il a sauté par la fenêtre. En fait, des histoires très, très bizarres. Enfin, un jour, je vous raconterai si vous voulez. Très bizarre. Le Gaon de Vilna. Il a sauté, il a dit, j'ai peur. Il y avait du ciel, c'était pas le moment. D'accord ? Les chassidim, ils disent que s'ils s'étaient rencontrés et qu'ils auraient fait le shalom, ma chère, ils seraient venus à ce moment-là. Kakadosh Baruch Hu n'était pas d'accord. Non. On n'était pas encore pris. À Kolpanim, en tout cas. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Concrètement, à Kadosh Baruch Hu, le Satan, il a fait ce qu'il devait faire et on n'a pas réussi. Donc, on n'a pas réussi à avoir de dialogue. Alors, Rabbi Menachem de Horodok, c'était trop pour lui. Et il a dit, je ne peux plus tenir ici, j'en peux plus. Je vais aller en Israël. Parce que là-bas, en Israël, c'est les Mekoubalim. Les Mekoubalim, ils ont beaucoup plus de respect pour les Chassidim. Parce que dans la Chassidim, il y a beaucoup de Kabbalah. Parce que c'est le même style. Donc, il a dit, écoute. Il a dit à Admour Hazaken, il a dit, je veux partir en Israël, je peux plus ici. Donc du coup, qui c'est qui a remplacé Rabbi Menachem Mendel de Horodok pour être le chef des chassidim? C'était l'Admour Hazaken. Rabbi Menachem Mendel de Horodok, il était déjà d'un certain âge, il est parti en Israël, il a fait sa alia. Et quelques années plus tard, c'était très fatigant le voyage, et même tout ce qu'il avait eu dans sa vie était très fatigant, il est parti de ce monde. Alors, même si concrètement, celui qui donnait les ordres... Oui, bien sûr.
À quel endroit?
À Tzfat, à côté de ça, je crois. Même si, concrètement, celui qui donnait les ordres, c'était l'Admour Hazaken, mais on savait que le remplaçant, c'était Rabbi Menachem Mendel, donc on lui envoyait des lettres, etc. Et quand Rabbi Menachem Mendel de Horodok est parti de ce monde, c'était une grande tristesse pour tous les chassidim. C'était très, très difficile. Mm-hmm. Donc cette lettre, l'Admour Hazaken va envoyer une lettre à tous les chassidim pour les consoler du départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Et c'est dans cette lettre, qui est une lettre qu'on étudie chaque année à tous les Loulas, dans laquelle l'Admour Hazaken va expliquer aux chassidim qu'est-ce que ça veut dire une Hiloula. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le tzadik part de ce monde. Et comment d'un côté on doit être triste qu'il est parti, mais d'un autre côté on doit s'en réjouir. D'accord ? C'est une lettre assez particulière, qu'il a écrite, donc, comme on a dit, dans la réalité de l'époque, donc pour consoler les chassidim après le départ. C'était un moment dans lequel les chassidim avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. D'accord ? Donc on va lire ensemble dans les mots. On va prendre la lettre 27, donc c'est la page 290. Un jour, je vous raconterai, c'est très intéressant l'histoire de Rabbi Menachem de Horodok et l'Admour Hazaken. Comment ils ont. Même des deux côtés, hein, c'est pas que du côté des chassidim, des deux côtés, il y a eu un effort pour essayer de faire le shalom et chaque fois.
Du Kanvina, tu veux dire.
Des deux côtés. Ah, d'accord. C'est-à-dire des côtés chassidim, côté mitnagdim. Chaque fois, à un certain moment, on voyait que c'était trop, qu'il fallait arrêter. Et à chaque fois, il y avait un truc qui venait. il y avait quelqu'un qui venait raconter un autre truc, etc. Et à chaque fois, ça s'est tout sauté. Ou quoi, quand Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore décidé, c'est pas le moment. Alors, bon, bah, Hachem, tout ça s'est calmé. Aouvaï, achai, verehai, asher kenafshi, roulé. Donc, mes amis.
C'est quoi, calmer? C'est l'RP froide?
C'est calmé, non, ça n'a rien à voir avec avant. Non. À l'époque, c'était très grave. Hein.
Ah, c'était... Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la paix froide?
Non, c'est rien aujourd'hui. C'est du... Aujourd'hui, c'est des batailles de gamins. Ah, ouvaille, c'est rien. Ça n'a rien à voir. À l'époque, ça allait jusqu'à hein, qu'on était capable même. On était capable même, par exemple. Pourquoi l'admiral Zakan était en prison? Parce qu'il y a des gens, je sais pas si tu es avec l'accord là-bas, mais en tout cas, il y avait des gens qui ont dit que pour l'arrêter, tous les moyens sont cachés. Donc, ils sont partis raconter des choses fausses au gouvernement pour qu'on l'emprisonne. Il fallait l'arrêter.
Entre juifs.
Bon, pour vous montrer. Bien, maintenant. Aouvaï, achai, verehai. Acher, kenafshi, roulé. Donc, mais le rabbi dit que ça ne sert à rien de s'arrêter sur les choses négatives, il faut continuer sur les choses positives. Aouvaï, achai, verehai, acher, kenafshi. Donc, là, c'est une lettre qu'il va adresser pour essayer de les consoler. Donc, mes amis, mes frères, d'accord, et mes aimés, acher, kenafshi, que j'aime comme moi-même. Donc, c'est une expression qui vient du Midrash. Hachem, alem, irhiou, chaim, adaolam. Donc, c'est la manière comment il commence sa lettre. Donc, que Hachem soit avec eux et qu'ils vivent, etc. Vete tsaem itam zeraimet. Et je bénis également leur descendance. Qu'ils aient une vraie descendance, c'est-à-dire une descendance cachère. Bruch Hachem hema, qu'ils soient bénis. Meata vedolam. Ça, c'est des formules de. Lettre 27.
Formule de politesse.
Bien sûr qu'on peut s'arrêter après sur chaque mot, mais bon, c'est pas mon but. Vete tsaet. Donc, acharet richat shlomam ki mishpat leoave shemo. Donc, après que je leur demande comment ils vont. C'est comme quand on écrit un courrier, on dit comment allez-vous, etc. Mais ça, c'est juste, c'est pas pour ça que t'écris le courrier. T'écris le courrier pour ce que tu veux parler. L'objet. Bati le daber, je suis venu ici pour parler à l'élève nitkaim, sur le cœur de ceux qui sont oppressés, à nehenachim, ceux qui soupirent, ve nehenachim, et ceux qui sont souffrants. Souffrants de quoi? Alors, il n'avait même pas besoin de le dire. D'accord, c'était tellement évident pour l'époque que c'était donc pour la perte du tzaddik Rabbi Nachman Mendel de Oronok. D'ailleurs, vous voyez, d'où je sais que c'est, parce que c'est pas écrit dans la lettre qui parle de ça, parce que dans la lettre c'était évident que tout le monde parlait, que quand on dit les événements, c'était de ça qu'on parlait. C'est dans le titre. Le titre nous dit que c'est une lettre que l'Admor HaZaken a écrite après le départ de Rabbi Nachman Mendel de Oronok. Et donc, ou les Nachamam, je vais essayer de vous consoler. Bichiflaim le Tushia. Et c'est quoi une vraie consolation? C'est une consolation qui non seulement on va réussir à calmer les pleurs, mais au contraire, on va réussir, ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne pleure? Il est descendu en dessous de zéro. Donc, t'as deux types de consolation. T'as une première type de consolation, c'est qu'on réussit à le remonter à zéro. Et t'as la meilleure consolation, c'est quoi? C'est que non seulement on le remonte à zéro, mais on réussit carrément à lui faire remonter la pente et repartir comme avant, et même encore mieux qu'avant. Ça veut dire, en d'autres termes, on va expliquer à la personne pourquoi ce qui s'est passé qu'Aviachol, il y a du bien dans ça. Alors, Asher Shamar Ozni Vetivenla, ce que nous avons entendu, ce qui est donc les nouvelles qui sont venues d'Israël, Al-Mahamar, Rabotenu, Zichonam, Livracha, Shava, Kraim, Lecholchai. Il dit, pour comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre les événements, on peut pas juste simplement dire il est mort. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Il faut voir comment les Chachamim s'expriment quand ils disent que quelqu'un est parti de ce monde. D'accord? Alors ça, c'est une phrase qui est très fréquente dans la Gemara. On dit Shava Kraim le Cholchai. Et dans les livres, d'ailleurs, même dans les livres aujourd'hui, très souvent, vous avez le Rashi Tevot, Shin Chet Lamed Chet. Des fois sur les pierres tombales aussi. Shin Chet Lamed Chet. C'est le Rashi Tevot de ça. Shavak Kraim le Cholchai. D'accord? Shavak Kraim le Cholchai, ça veut dire que donc, il a laissé la vie, le Cholchai, d'accord? À toute la vie. Il a laissé la vie à toute la vie. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une expression qui est très fréquente dans Rambam, dans la Gemara, dans. Shavak Kraim le Cholchai. Il a laissé la vie à toute la vie. Alors, ça veut dire quoi, à toute la vie? Ça veut dire à celui qui est tout vivant, à Kadosh Baruch Hu. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, d'accord, comment nous on comprend Shavak Kraim le Cholchai? Comment les gens comprennent ça? Ils disent oui, ça veut dire que nous on est restés vivants, et que le tzaddik, il a laissé la vie à tous ceux qui sont vivants. Ça veut dire qu'en vérité, nous on est vivants, et le tzaddik, il a laissé la vie à tous ceux qui sont vivants, c'est-à-dire que lui, il est mort, et nous, on est vivants. C'est comme ça qu'on aurait pu comprendre. Les gens comprennent comme ça.
Oui, il reste vivant.
Mais dans ce cas-là, il y a un problème. Parce que dans ce cas-là, hein, comme explique ici le rabbi, il dit, dans ce cas-là, ça marche pas, il y a un problème. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu dis, il a laissé la vie à tous ceux qui sont vivants? Pourquoi tu dis le terme laisser la vie? Quand tu dis laisser, ça veut dire qu'on a récupéré sa vie. Est-ce que quelqu'un qui meurt, on récupère sa vie? Donc ça marche pas. Je répète. En général, dans la Gemara, quand on dit qu'une personne est partie de ce monde, on dit Shavak, enfin, c'est pas, non, très souvent, on dit Shavak Chaim Lechol Chai. Il a laissé la vie à tous les vivants. Tous les vivants, c'est qui? C'est nous. Comment les gens comprennent? Ils disent oui, ça veut dire qu'il est mort. Donc lui, il est mort et nous, on est vivants. Mais il y a un problème. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu dis il a laissé la vie à tous les vivants? Est-ce que quelqu'un qui meurt, il nous laisse sa vie? Il nous laisse pas sa vie.
Il nous laisse son œuvre.
On comprend comme celui qui est parti, c'est une sorte de capara pour les gens qui restent.
Ah, on va voir, ok. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas Shavak.
Il a laissé sa vie, enfin, sa vie était devenue, il était laissé.
Non,
on va voir.
Non, mais moi, capara,
c'est pas son œuvre.
C'est pas tuer son
œuvre. La vie des autres, concrètement, c'est pas lui qui leur a laissé. On va dire, il a racheté leur vie, il a pas laissé sa vie. C'est un terme qui est assez bizarre. D'accord, donc a priori c'est particulier. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais la vie, ça veut dire sa vie, c'est en fait, il y a une autre explication à sa vie.
Alors c'est ce qu'il va expliquer ici. Ce qu'il va expliquer ici, c'est qu'en vérité, ce qu'on va expliquer, c'est que en vérité, il a laissé sa vie. Il nous a laissé sa vie. Seulement nous, on comprend pas. C'est-à-dire qu'il nous a laissé sa vie. On n'a jamais vu que quelqu'un qui est mort nous a laissé sa vie. Il est mort et nous, on va pas vivre une année de plus parce que quelqu'un est mort. On n'a jamais vu ça. Il te dit non. En vérité, la vraie vie d'un tzadik, c'est pas la vie matérielle. C'est pour ça qu'on peut. Quel était notre problème? Parce que notre référentiel, c'est des années de vie. Je dis, voilà, je devais vivre 70 ans, 80 ans, d'accord? Et bien, quand une personne est morte, il m'a donné 10 ans. Je dis, mais non, il m'a rien donné, il m'a rien laissé. Je dis, non. Qui t'a dit que quand on parle de vie, on parle ici de vie physique? On parle pas de ça. C'est quoi la vie d'un tzaddik? C'est quoi la vie d'un tzaddik? En quoi il est tzaddik? Ce qu'il va expliquer ici. En quoi il est tzaddik? Est-ce que tu crois qu'il est tzaddik parce qu'il est vivant dans un corps en chair et en os? Ça n'a rien à voir. C'est pas ça ce qui le rend tzaddik. Qu'est-ce qui le rend tzaddik? C'est son essence. Son essence, est-ce que le tzaddik peut nous la reléguer, peut nous la donner? Oui, il peut nous la donner. Ce qu'il va expliquer ici, c'est que quelque part, c'est une très très belle lettre, quand un tzaddik il parle de ce monde, on va devenir les représentants du tzaddik dans ce monde. Ça veut dire qu'avant, le tzaddik, salut, avant,
il laisse son essence.
Ça veut dire comme ça, avant, le tzaddik, lorsqu'il était là, celui qui voulait, il allait le voir directement. Et c'est tout, on allait le voir et c'est fini. Maintenant, Kaviachol, le tzaddik, il va continuer à communiquer avec le monde, mais il a besoin d'ambassadeurs. Il a besoin de gens qui vont le représenter. Donc il a besoin de laisser la vie à ceux qui sont vivants. De quelle vie on va parler? La vie spirituelle. C'est-à-dire que le tzaddik, en vérité, quand on va aller prier dans la tombe d'un tzaddik, on lui demande d'être le keli, d'être l'ambassadeur du tzaddik pour amener la bracha dans le monde. C'est extraordinaire. Donc là, en fait, ce qu'il va essayer d'expliquer aux chassidim, il va leur dire, personne ne vous dira qu'il n'est pas parti, bien sûr que Baroda et Naemet, etc., et qu'il y a les minagim de deuil qu'il faut les faire, etc. Mais Kaviachol, maintenant, c'est nous qui allons le représenter. Et sérieusement, il va expliquer. Kit Sadik, Be'emunato, Ichie. Il dit d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Sadik a laissé sa vie à tous les vivants. Nous, on a dit, mais on voit pas qu'on laisse de vie, on laisse pas la vie. Une personne qui meurt ne laisse pas la vie. Tu dis, attends, on parle pas forcément de la vie physique, on peut parler de la vie spirituelle. C'est quoi la vie spirituelle? Encore une fois, on va aller chercher dans les textes. Qu'est-ce que les textes disent? C'est écrit, Vetzadik be'emunato ichir. Dans Habakkuk, c'est écrit que le tzadik vivra avec sa emuna. De là, on voit qu'une composante principale de la vie d'un tzadik, c'est quoi? C'est la emuna. C'est de la même manière que nous, notre composante principale de la vie, c'est quoi? C'est l'air qu'on va respirer. Eh bien, le tzaddik, la composante principale de sa vie, c'est sa emouna. Donc déjà, on va comprendre qu'est-ce que le tzaddik va nous donner quand il part. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans Michelé, ou Beirat Hashem, Ktiv Lechaim. À propos de la crainte de Dieu, c'est écrit dans Michelé, d'accord? Dans Michelé, si vous voulez la référence, dans chapitre 19, verset 23, c'est écrit que la crainte de Dieu amène la vie. Donc on voit encore une fois une deuxième chose qui est liée à la vie. Donc nous, on veut savoir qu'est-ce que c'est la vraie vie, qu'est-ce que c'est la vie du tzaddik. Qu'est-ce qu'on voit les textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que déjà la vie d'un tzaddik, c'est lié à quoi? C'est lié déjà à la emouna, et c'est lié à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Uberish ve'esh shal evet ahavato lachol bahen chaye rucho v'nishmato kol yemei cheldo. Et donc il dit comme ça, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il va expliquer ici qu'un tzaddik, dans sa vie, ici-bas, il va se focaliser sur trois points. Et on va développer. Il va se focaliser sur la emouna, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. La vie du tzaddik va tourner autour de ces trois points. C'est-à-dire ça va être la spécificité du tzaddik. Il faut qu'on comprenne bien ce que je suis en train d'expliquer ici. Un tzaddik, ça n'a rien à voir avec un gaon. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont aussi gaon et aussi tzaddik. Un gaon en hébreu, ça veut dire un génie. On a des gens qui sont des génies en Torah, mais qui ne sont pas tzaddik. Tu vas me dire, il dit, écoute, tu veux me poser une question, je peux te dire le nombre de fois où c'est écrit dans la Gemara ce mot-là, mais tu ne demandes pas de bracha, moi je suis pas habilité pour ça. Non, parce que je suis pas habilité pour ça. Bien sûr que le fait d'étudier la Torah, ça amène une certaine kdusha. Mais Gaon et Tzadik, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. D'un autre côté, on a eu dans l'histoire beaucoup de Tzadikim qui n'étaient pas Gaon. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément des Rabbanim.
Mais ils savaient.
D'accord ? Ça veut dire qu'ils connaissaient la halakha en gros, mais dès que tu lui posais des questions pointues à la halakha, il dit faut poser la question au rav de la ville. Parce que c'est pas son domaine. Son domaine, c'est la Kabbalah, son domaine, c'est la Kedusha, son domaine, c'est pas ça. C'est pas son domaine. D'accord ? Des fois, je vais vous dire plus que ça. On a vu des gens qui connaissaient parfaitement la halakha, et que quand même, c'était pas leur domaine. Chez qui on a vu ça, puisque c'est Gimel Tammuz et Shabbat, donc la lula du rabbi, on a vu ça chez le rabbi. Plein de lettres du rabbi que je lis, et dans lesquelles, des fois, t'as le rabbi qui dit, il faut faire comme ça, mais c'est très 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 rare. En général, quand on lui posait des questions dans la halakha, il disait, vous poserez la question au rav de votre ville. Qui connaissait pas la réponse, c'est des réponses des fois que même moi je connais. C'est rien, c'est des réponses.
Non, mais il rend au référent.
Hein? Parce que c'est pas son domaine. Pourtant, des fois, on a vu que des fois, sur des domaines très complexes, le rabbi, il a dit ce qu'il avait à dire parce qu'il a estimé que bon, il devait documenter, il devait expliquer, il l'a dit. Mais en général, d'accord, il dit, je laisse ça pour les rabbinim, mais c'est pas son domaine. C'est-à-dire qu'un tzaddik n'est pas là forcément pour enseigner la Torah. Un tzaddik est là pour trois choses. Il est là pour véhiculer la émouna, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Donc il utilisera tous les moyens qu'il a en sa possession pour ça. Donc s'il faut enseigner la Torah pour ça, s'il faut encourager pour ça, s'il faut distribuer de la meria ou tout ce que tu veux, d'accord, de la meria ou de la vodka ou du gâteau ou des dollars, ce que tu veux. Le tzadik après, c'est son problème. C'est lui qui va décider quels sont les meilleurs moyens pour lui permettre d'arriver à ce but de travailler sur trois choses. Sur la émouna du Ham Israël, la crainte de Dieu du Ham Israël et l'amour de Dieu du Ham Israël. Ça, c'est les trois points sur lesquels le tzadik va travailler. Alors après, bien sûr, chaque tzadik a ses spécificités, mais ça, on le voit chez les tzadikim. Que les tzadikim, c'est pas forcément des gens chez qui on venait pour étudier la Torah. Bien que les tzadikim, ils ont des chidushim extraordinaires, mais c'est pas forcément des gens chez qui on venait pour étudier la Torah. C'est pas forcément leur rôle.
Renforcer la émouna.
Leur rôle, c'est d'abord de renforcer la émouna. D'accord ? Renforcer la émouna, on a dit la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Trois points qu'il a expliqué ici. Et donc, Vayehi. Donc, ça sera. Be'alot Hashem Rucho. Lorsque Hashem décide de faire monter l'esprit du tzaddik. C'est-à-dire lorsque Hashem décide de rappeler le tzaddik à son chevet. Donc, Rucho Venishmato Elav. Lorsque le tzaddik, lorsque Kadosh Baruch Hu, pardon, décide de rappeler le tzaddik. Ye'esof, il va rassembler. Ve'yale. C'est-à-dire que le tzaddik, il va monter. Akadosh Baruch Hu va faire monter le tzaddik à Drouma Ma'alot jusqu'au plus haut de niveau. Et bien là, à ce moment-là, tu sais ce qu'on te dit. Tu crois que le tzaddik, il va partir et qu'il nous laisse en plan et qu'il nous a oublié? Non. Qu'est-ce que te dit la Gemara? Shavak Chaim le Chol Chai. Il a laissé sa vie à tous les vivants. C'était quoi la vie du tzaddik? C'était la Emouna, la Yira et la Ahava. Ça veut dire quoi? Shavak Rayerucho, le tzaddik, il laisse sa vie. Peulato, Asher Avadba, Lefanim, Beisrael. Que finalement, quel était le point sur lequel le tzaddik s'est focalisé plus tôt? Il s'est focalisé sur la Emouna, la Ira et la Ahava. Peulat, tzaddik, Lechaim. Que le tzaddik continue toujours à travailler sur ces trois points. À donner la Emouna au Ham Israël, à donner la Ira Tachem au Ham Israël et à donner la Ahava Tachem au Ham Israël. Le chol chai in nefesh kol chai akshura benafsho bechavle avotot ahava rabba ve'avat olam. Il demande une seule chose au tzaddik. C'est qu'il faut continuer à être attaché à lui. C'est-à-dire que toute personne qui décide de rester attachée à un tzaddik, même si c'est un tzaddik qui, a priori, a été rappelé chez Hachem il y a 3000 ans, d'accord? Quelqu'un qui décide de s'attacher à ce tzaddik-là, eh ben, ce tzaddik-là s'occupe de lui. Et ce tzaddik lui donnera la emouna, la ira et la ahava. Parce que ça ne peut pas partir, ça ne partira jamais. D'accord. Après, il expliquera concrètement comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit que les gens ils s'attachent plus aux tzadikim qu'ils ont connus, ou que leurs parents ont connus, ou que leurs grands-parents ont connus. C'est ce qu'on voit dans la réalité aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, que les gens ils vont aller pèleriner, ils vont se sentir attachés à des tombes de tzadikim qu'on a connues dans la famille, ou on a connues dans la ville, ou on a connues, enfin, des choses que on a connues. Pourquoi? Ça, il expliquera plus tard. Il expliquera que dans ce cas-là, il y a une affinité particulière du tzadik. Quand c'est quelqu'un qu'on a connu, ou qu'on a connu quelqu'un qui l'a connu, ou bien c'est-à-dire qu'il y a eu une connaissance physique, il y a une affinité particulière. Mais quoi
qu'il y ait plusieurs, alors comment tu fais ton choix ?
Bah, tu vas les voir tous.
Et toujours un qui est... Un particulier qui raflamise.
Ah. Non, 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 je ne parle pas pour moi. Je parle, oui. Imagine, tu as eu là-bas, tu as connu.
Un qui t'a marqué en particulier, quoi.
Un qui t'a marqué en particulier. Un qui a marqué le monde particulièrement. Donc, Vaïta, Tsrora, Bitro, Achaïm, et Hachem. Bon, mais j'étais un peu.
Aiguillé.
C'est un choix personnel, ça. Donc, Akshura benavsho vechavle avotot ahava, ahavat rabba veahavat olam baltimot lanetzar. Que le tzaddik continue à rester attaché. Le tzaddik continue à rester attaché à ceux qui sont attachés à lui. Et il dit, c'est bechavle avotot. Bechavle avotot, ça veut dire avec des chaînes, des cordes. Et il est enchaîné et qu'il ne lâchera jamais. Asher mi aish et chafet sraim, que s'il y a un homme qui voudra la vie, et on explique que c'est quoi la vraie vie. Emuna, ira et ahava. Les Dovka Bashem Chaim, qui veut s'attacher à Hachem, au Dieu vivant. Et comment il veut s'attacher à Hachem? Au travers du Ba'avodato, au travers du travail du Tzadik. Tidbak Tamcho. Eh ben, on peut toujours s'attacher au Tzadik, même si a priori le Tzadik a été rappelé chez Hachem. Ve'aita, Tzrura Bitzror Ha'chaim et Hachem, Bechaye Ruach Apeinu. Donc, on continuera toujours à rester attaché avec Hachem. Asher Amarnu Betzilo Nichye Bagoim. Et que finalement, qui c'est qui va lui donner les forces de vivre à l'ombre des goyim, ça veut dire de vivre donc en galoute. Qui c'est qui va lui donner les forces de vivre en galoute? C'est les tzadikim. C'est-à-dire que là, en vérité, il veut nous expliquer ici le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il sait, c'est une allusion qu'on explique chez Chassidim, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de... Quand on va en Ukraine, ou en Afrique, ou n'importe où, on voit qu'il y a des tombes de tzadikim qui ne sont même plus fréquentées, enfin très peu fréquentées. Et on se pose la question, on se dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils ont été enterrés là-bas? Pourquoi ils n'ont pas été enterrés en Israël? On a l'impression qu'ils sont délaissés, bien sûr qu'ils ne sont pas délaissés, mais bon, pourquoi ils sont là-bas? C'est écrit que partout où il y avait des juifs qui sont restés, à Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait des tzadikim qui sont enterrés à côté. Pourquoi? Parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, lorsque ces gens-là, ils auront des moments difficiles, ils viendront voir les tombes de tzadikim, et ce sera le canal par lequel ils s'adresseront à moi.
Ils ne sont plus dans ces pays maintenant.
Hmm?
Ils ne sont plus dans ces pays.
Qui n'est plus dans ces pays?
L'Ukraine.
Il y avait un moment dans lequel on était dans ces pays. Tu sais que c'est très compliqué de déplacer un tzadik. Très très compliqué. Même de déplacer quelqu'un un corps en général.
Oui.
On le fait vraiment très très... C'est très compliqué de le faire. Je sais qu'ils l'ont fait avec le Chida. Tu sais qu'ils l'ont fait avec
oui,
le Chida.
Oui.
C'est toute une histoire. C'est le Rav Mordechai Eliyahu, les Zatzal qui s'en est occupé. Et bon, c'était un truc...
Il était enterré.
Ils ont voulu l'enterrer. Il était en Italie.
En Italie.
Il était en Italie. Ils ont voulu l'amener en Israël. Bon, ils ont fait. Ils sont rassemblés plusieurs rabbanim, sfaradim. Ils ont décidé que pour le bien de la communauté, c'était mieux de l'amener en Israël. Donc ils ont fait un. Ils ont fait. Donc vous savez, quand on déterre quelqu'un, tout le monde jeûne. Alors eux, ils ont jeûné plusieurs jours, etc. Enfin bon, ils sont préparés. Mais il a raconté des choses. Le Ramadan Khalil, je l'ai entendu. Hein, j'ai entendu l'enregistrement. Il raconte des choses. Tu tombes par terre du style. La tombe se mettait à bouger. Ils ont mis ses ossements dans une tombe. Et il a raconté, il a dit, dès qu'on a pris les ossements, ils ont commencé à se recomposer tout seuls. C'est-à-dire, voilà, il y avait, eux, ils ne savaient pas où est la tête, où est les pieds, etc. Et tout seul, ça veut dire, il a dit, le Rav Mordechai Eliyahu, c'est pas un rigolo, hein. Il a raconté, il a dit, ma main bougeait, et voilà, même pas quelques secondes, on a reformé le corps. Et après, il a dit, on l'a mis dans l'avion, donc bien sûr, t'es lié, etc. Et il a raconté, il a dit à un moment, la tombe a se mettait à bouger. On ne savait pas quoi faire. Ils se mettaient à bouger, sauter, etc. Et c'était un truc dans l'avion. C'est une catastrophe. Alors ils étaient là, tous les rabbanim dans l'avion, en train d'essayer de faire des télims, etc. Et ça ne se calmait pas. Alors à un certain moment, le rabbin de Chayahou, il s'est mis à crier. Il a dit, Rida, si on l'a fait ça, c'est pour ton kavod. Alors il faut que ça s'arrête. À ce moment-là, ça s'est arrêté. Mais depuis, il a raconté, il a dit, depuis, on... on prend des précautions. Et puis on n'a plus d'intérêt.
Mais il y avait une raison qui les a poussés à ça ?
Parce qu'il habitait dans un village, il n'y avait plus personne qui allait là-bas. Un village paumé en Italie. Je ne me rappelle même plus le nom du village. Un village, il n'y avait même plus de communauté, il n'y avait rien. Alors ils ont dit, on va l'amener. On déterre, c'est permis de déterrer. Mais un tzadik, c'est compliqué. Donc j'étais en train d'expliquer ici que le tzadik, comment en galoute on peut s'attacher. Comment, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'en galoute on a beaucoup de gvarim de tzadikim? Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait qu'un jour viendra, on aura besoin de voir des tzadikim. Et donc, il nous a laissé des Gvarim et Tzadikim pour tous ces gens-là qui sont en Galout. Qui ? Alors, Asher Shavak Chaim, Asher Shavak Lanou, Bechol Echad Ve'Echad, Kefi Prinat Itkashrut Be'emet, Ve'avato le Tzadik, Ahavat Emet Ateora, Mikerev Ish Ve'Lev Amok. De la même manière que le tzaddik, avant qu'il parte de ce monde, on dit qu'entre un chassid et son rabbi, entre en général un rav et son élève, il y a un grand amour. On dit que l'amour d'un rav et son élève, l'amour d'un tzaddik et son rabbi, ça peut être encore plus fort que l'amour d'un homme envers sa femme. C'est un amour qui est très très fort. Et ce qui explique ici, c'est que cet amour-là, c'est un amour qui ne partira pas. Qui kemaim apanim, apanim, ve ruach, aite ruach, ve amshi ruach. Ça, c'est une phrase que le Zohar dit. Dans le Zohar, dans le volume 2 du Zohar, il dit comme ça. Il dit que l'esprit attire l'esprit et attire l'esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, tu as quelqu'un en face de toi qui ne t'aime pas forcément. Et toi, tu vas lui envoyer un sentiment d'amour. Donc tu lui envoies un esprit. Donc l'esprit attire l'esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne B, elle, de son autre côté, puisque toi, tu lui as envoyé un esprit d'amour, ça va générer en elle un esprit d'amour. Donc l'esprit attire l'esprit. Donc l'esprit A attire l'esprit B. D'accord ? Qui, elle, va renvoyer un sentiment d'amour vers l'esprit A. Et Ve'amshir Ruach, et du coup, quand on arrivera déjà au deuxième tour, qu'après t'as le. Après, c'est comme un circuit. Quand t'as après l'esprit A qui renvoie un esprit d'amour à l'esprit B, d'accord ? Ve'amshir Ruach, ça s'arrête plus, c'est sans fin. Et bien, c'est exactement comme ça que c'est avec les tzadikim. Ve'rucho omedet bekirbenu mamash. Donc là, il s'adresse explicitement aux chassidim, et leur dit, sachez que l'esprit de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, Rabbi Menachem Mendel, son esprit est toujours parmi nous. Qui ? Bir Oto Yeladav, lorsqu'il voit ses enfants. C'est qui ses enfants ? Ses enfants, c'est ses élèves. Parce qu'on sait très bien que selon la Torah, les élèves, c'est appelé des enfants. Comme c'est écrit, Veshinan Tam Levanecha, tu enseigneras la Torah à tes enfants. Qu'est-ce que dit Rashi ? C'est qui les enfants ? C'est les élèves. Quand le tzaddik, il voit ses élèves, Maase Yadav Bekirbo, il voit ses élèves. Ses élèves, finalement, c'est quoi ses élèves ? Ses élèves, c'est la même manière que quand un parent il va voir ses enfants biologiques, eh ben c'est qui les enfants d'un tzaddik ? C'est ses élèves. Quand il voit ses élèves, il y a Gdishu chez Moïdbarer. Il voit comment ses élèves vont continuer à sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Asher, Itgadal ve Itkadash. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu, grâce à ses élèves, il va aller en augmentant et en se sanctifiant. Kaasher Neler Bederer Yeshara. Il va voir comment ses élèves continuent à aller dans le droit chemin. Asher Orenu Midrachav, et qui vont suivre le chemin tel que le Rabbi Menachem Mendel nous a enseigné. Venelcha Beochotav, et comment on va suivre ses voies, Netzar Sela Va'en à jamais. C'est-à-dire ce qui veut dire comme ça, veut dire de la même manière que quand une personne part de ce monde, une personne biologique part de ce monde, et qu'il est en haut, c'est quoi sa plus grande consolation ? C'est quand d'en haut, il voit que ses enfants suivent le chemin qu'il a fait. Il dit voilà, mes enfants, je leur ai donné une boutique, je leur ai donné ci, je leur ai donné ça, d'accord ? Je leur ai appris à éduquer une bonne famille. Et quand il voit d'en haut comment ses enfants vont éduquer une bonne famille, c'est ça ce qui va le consoler. Il dit maintenant le tzaddik, c'était quoi sa vie, le tzaddik ? La vie du tzaddik, c'était la emuna, ira et ahava.
Il y a encore cette notion ?
De quoi ?
Parce que les enfants, au niveau de la neshama, c'est plus la relation...
De trois choses ?
Non. Voilà, c'est ça. C'est
ce niveau-là. Les parents, ils continuent à regarder les enfants, continuent à avoir du nahat des enfants, continuent à avoir du plaisir des enfants.
Non, vous disiez que les âmes, elles sont pas uniques. Et donc, après, tu dis même âme, elle peut...
Il y a une grande marloquette dans la Gemara Sanhedrin.
Est-ce que la relation physique, elle a la même relation?
Alors, je vais te poser la question. Il y a une grande marloquette dans la Gemara Sanhedrin, sur plusieurs pages, sur trois pages de mémoire. La question qu'on se pose, est-ce que les dinim qu'on fait pour le deuil, est-ce que c'est pour les morts ou pour les vivants ? Ça veut dire comme ça, t'as quelqu'un qui est parti de ce monde, on va faire des minagim de deuil. Est-ce que c'est pour celui qui est mort ou est-ce que c'est pour nous ?
Nous, on penserait que c'est pour le mort.
Hein ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Tu vas dire que c'est pour nous.
Non, j'ai rien dit encore.
Non, c'est pour le mort.
C'est pour le mort.
C'est pour le mort ou pour nous ?
Pour le mort.
Est-ce que c'est pour nous parce qu'on a besoin de pas de... Le mort, il est bien, il est chez HM.
C'est vrai ?
Alors qu'est-ce qu'il a ? Il a besoin de nous...
Oui, on le fait justement pour arriver...
Je parle pas du Kaddish. Oublions le Kaddish. Bon, le Kaddish, on va dire que c'est pour sauver du Gainam, etc. Ok, mettons le côté de le Kaddish. Enfin, tous les Minagim de deuil. Est-ce que le mort, lui... Enfin, le mort, celui qui est Niftar, est-ce qu'il en a besoin de ça ? Alors, c'est une grande marloquette dans la Gemara. Mm-hmm. Quand je dis grande marloquette, ça veut dire que... Là, on a même des preuves d'un côté, des preuves de l'autre, des preuves d'un côté, des preuves de l'autre. Et finalement, la conclusion de la Gemara, enfin, selon un avis, c'est que c'est Ikra décharvé. Ça veut dire qu'on le fait pour les morts. Et que les morts continuent à communiquer avec nous. Et que le fait qu'ils voient que leurs enfants continuent dans leur chemin et qu'ils pensent à eux, eh ben, ça les rassure. Ils ont besoin d'être rassurés qu'on continue à penser à eux. C'est plus pour les morts que pour les vivants. Vous avez besoin de la Gemara. Alors, pour ta question ? Oui, ça veut dire qu'ils continuent à avoir
donc,
une sorte
de... Relation,
bien sûr.
Ça. Donc, ça, ok.
Alors, c'est très intéressant cette Gemara parce qu'elle amène des preuves avec des histoires, avec des trucs, etc. Enfin, c'est des histoires très... pas bizarres, mais bon, très... Un jour, on la fera, c'est très intéressant.
S'ils font des bêtises, les enfants, tu peux crier un peu.
Mais combien de fois on voit des histoires, on dit que des, les parents qui viennent du monde de la vérité, qui viennent bousculer leur fils et qui disent « arrête un petit peu ». Donc, « Kibir akasha nela b'derech ishara, asher orenu midracha venelcha b'ochotav netzar sela va'ed ». Donc là où on en est maintenant.
Netzar sela va'ed.
Voilà, Nassav, c'est Netzar, c'est la Varet. Je suis donc 6 lignes avant la fin, 6 lignes avant la fin de la page. Je vais un peu vite, hein, parce que mon but quand je fais les lettres, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est surtout de voir le sens général. Ok. Donc, on a ici une première chose qui nous dit le Rabbi ici, d'accord ? Première chose, après on va développer. C'est une lettre qui est assez longue. Mais déjà, la première chose qu'il nous dit, écoutez, c'est très simple. Quand tu as un père, d'accord, que pour lui, sa vie, c'était de voir ses enfants en bonne santé. Pour lui, quand il sera en haut, comment il sera rassuré? Quand il verra que c'est que ses enfants continuent à être en bonne santé. Et ben, il dit la même chose. Il dit, regardez le tzadik. C'était quoi la vie du tzadik? C'était le fait de renforcer la emouna, la ira et la ahava. Donc il dit, quand vous continuez à vous renforcer dans la emouna, ira et ahava, pour le tzadik, c'est comme si que vous étiez vivant. C'est comme si que lui continue à communiquer avec vous. Bon, ça c'est bien beau. Lui continue à communiquer avec nous. Mais comment nous, on peut communiquer avec lui? Vous comprenez la question? Lui, il communique avec nous. D'accord. C'est technique ce qu'il te dit. Tu dis, écoute, concrètement, pourquoi tu vas aller voir le tzadik avant? Pour qu'il te donne, pour qu'il t'encourage dans la emouna, ira et ahava. Si tu vas le voir à sa tombe maintenant et qu'il va te faire la même chose, qu'il va t'encourager, que tu vas sortir de sa tombe, tu vas t'encourager dans emouna, ira et ahava. Donc le tzadik, il t'a envoyé la même chose. Donc, pour lui, rien n'a changé. C'est pour qui que ça a changé finalement? C'est pour nous que ça a changé. C'est très difficile. Alors, comment on peut expliquer? Comment on peut se consoler quand suite à une perte comme ça? Il explique ici. Dit Vezé chez Katou Bezor Akadosh. Ce qui est écrit dans Zor Akadosh. De tzadik a dit Fata. Qu'un tzadik qui part de ce monde a priori. Ishtakar bekulhu almin yatir mi bechayoi. Il te dit, on va comprendre avec ça ce que le Zor nous dit. Que le Zor nous dit qu'un tzadik qui part de ce monde, nous on croit qu'il part de ce monde. Mais en vérité, ça c'est une phrase que le Rabbi répétait souvent, c'est une phrase du Zohar. Le Zohar te dit que le tzadik il sera présent dans ce monde encore plus que de son vivant. Ah, c'est un scoop, ça. Comment c'est possible? Il est parti de ce monde. Je veux bien que tu dises qu'il continue à nous envoyer des forces pour avoir la emouna, ira et ahava. Mais comment tu peux me dire qu'un tzadik qui part de ce monde, il est présent encore plus que de son vivant?
D'accord. Ah,
il va expliquer. C'est la Nekuda, mais il va expliquer. D'accord, la Nekuda, c'est ça. Mais ça, c'est problématique.
Avec tous les tzadikim qu'il y a eu depuis...
Ah, mais c'est très fort, ça.
C'est
ça. T'as quelqu'un qui part de ce monde, non seulement on te dit qu'il est pas, non seulement on te dit qu'il est pas parti, d'accord,
encore,
ça fait bizarre quand on entend ça.
On devrait avoir plus de bénéfices maintenant quand tu fais tout ça.
Ils sont présents, bien sûr. C'est pas seulement qu'ils sont présents. Et tu dis, ils sont présents dans ce monde encore plus que de leur vivant. Comment c'est possible? Comment un tzadik qui est parti de ce monde, tu peux dire qu'il est présent encore plus que de son vivant? Je veux dire, je veux bien qu'ils me disent que du ciel, il continue à penser à nous, à nous envoyer des brachot. Bon, ça, je veux bien. Mais il n'est pas plus que de son vivant. Faut pas être là à fermer les yeux et ne pas accepter la réalité. C'est quoi cette histoire? On va expliquer. Donc, Daïnou, ça veut dire, Shegam Beolam Amaasi. Vous avez dans les mots? Ça veut dire que même dans ce monde, allez messieurs, on va suivre ensemble, on va avancer. Ça veut dire que même dans ce monde, le monde de l'action, même là, Ishtakar Yatir, le tzadik qui a priori est parti de ce monde, est présent dans ce monde encore plus qu'avant d'être Kaviachol parti de ce monde. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment on peut expliquer ça? Qui a massé, parce que l'action de ses élèves et ceux qui le suivent, Gadel Veoler. Il dit, tu sais pourquoi on dit que le tzadik est encore plus présent dans ce monde? Parce que le tzadik, peut-être lui il est parti de ce monde, mais il a ses élèves, il a ses shluchim, il a ses élèves, qui eux continuent à grandir. Gidoulé, Gidoulim. Et eux, ils vont avoir des enfants spirituels. Et ces enfants vont avoir des enfants. Ça veut dire qu'après, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Ça veut dire qu'après, il te dit en vérité, le tzadik, quand il était dans ce monde, il était une seule personne qui représentait, par exemple, 1000 élèves. Mais après, quand il va, Kaviachol partir de ce monde, il part pas de ce monde, il continue à donner de la bracha. Quand le tzadik va partir de ce monde, Kaviachol, d'accord, ces 1000 élèves vont eux aussi avoir des élèves. après on arrive à la chaîne, c'est-à-dire qu'imaginez-vous que tu arrives après 1000 ans plus tard, ces 1000 élèves, ils vont donner combien d'élèves? Des millions de personnes qui ont été inspirées par ce tzaddik. Des millions de personnes. Et finalement, ça veut dire que la vie du tzaddik, non seulement qu'il est présent, mais il est présent encore plus qu'avant. Ça, c'est techniquement comment c'est possible. Vous me suivez? Parce que du fait qu'il y a des gens qui continuent à suivre ces enseignements, ça veut dire que techniquement aujourd'hui, le tzaddik est vivant encore plus qu'avant. Min or zaroua la tzaddik besade asher beracho Hashem. Dit que le tzaddik est toujours présent dans le champ que Hashem a béni. C'est quoi le champ que Hashem a béni? C'est le Gan Eden. Que depuis le Gan Eden, le tzaddik est toujours présent. Ameir la aretz v'chutzot. Vegam anachnu ele po hayom. Que du fait que nous, on continue à suivre le chemin du tzaddik, zot va avodat Hashem bemile d'ishmaya ou bemile d'alma. Et donc, du coup, le tzaddik va continuer à nous inspirer, que ce soit la vie spirituelle, mais pas seulement ça, ou bemile d'alma, même les choses physiques, même la parnassa, même les choses matérielles, le tzaddik continue à s'occuper de nous. Parce qu'on aurait pu penser, que tu m'as dit que le tzaddik, il est présent, on a dit sur les trois points qui sont la emuna, la ira et la ahava. Donc j'aurais pu penser que si le tzaddik est présent, il continue à être présent, mais uniquement sur ces trois choses-là. C'est-à-dire qu'un tzaddik, du coup, il va donner des brachot seulement pour Avodat Hashem. Tu viens lui demander, aide-moi à faire une bonne tfila, aide-moi à étudier la Torah comme il faut, le tzaddik il dit que je peux t'aider. Mais tu viens lui demander, donne-moi de l'argent, il dit non, je peux pas, je suis en haut maintenant. Il te dit non. Le Zohar dit clairement le contraire. Vefirush itmar vezohar akadosh. Le Zohar dit explicitement, des tzaddikaya, que les tzaddikim, meginin al-alma, ils protègent le monde, ou bemitat hon, que quand de leur vivant ils protègent le monde, ou bemitat hon, et que de leur mort, yatir mi bechayehon, ils protègent le monde plus que de leur vivant. Quand on y est protégé, c'est même physiquement. Veil male, tselota de tzadikaya, dit le Zohar, si ce n'était la tfila de tzadikim, imaginez-vous les milliers de tzadikim qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'était la tfila de ces milliers de tzadikim qui prient pour le monde, loit kayem almarig achada, le monde n'aurait pas pu tenir un seul instant. Les mots du Zohar. Ça veut dire que si aujourd'hui on a la parnassa, si aujourd'hui on a les enfants, si aujourd'hui on a tout ce qu'on a, le Zohar te dit, c'est grâce à la bracha de milliers de tzadikim qui sont en train de prier pour nous. Et s'ils arrêtaient de prier un seul instant, le monde n'aurait pas pu tenir un seul instant. Parce que le problème c'est quoi? C'est plus on avance dans le monde, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bien, mais il y a de plus en plus aussi de mal. D'accord? Et donc, il faut une bracha des tzadikim pour nous donner la force pour tenir pour tout ça, pour Kaviacha nous dire que même avec tout ce mal, il faut qu'on continue à vivre. Ça, c'est grâce à la bracha des tzadikim. V'chol akarov el mishkan Hashem bechayav kodem livracha. Voilà. Ça, c'est la lettre de Morazaken. C'est une lettre qui est très courte. Et donc, il dit comme ça, il te dit, plus une personne était proche du tzadik de son vivant, et plus il sera prioritaire lorsque le tzaddik sera chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il dit, voilà, c'est explicite. Il dit, plus tu étais proche du tzaddik, du vivant du tzaddik, t'es prioritaire pour la bracha. Ok. C'est pour ça, si tu veux que ça fasse, t'as intérêt à passer avec quelqu'un qui a connu le tzaddik ou quelqu'un qui est dans le coup, quoi. Ok. Ça, c'est, d'accord?
C'est quoi connaître? C'est quoi connaître?
Connaître, ça veut dire celui qu'il représente, ça veut dire celui qui l'a connu.
Oui, c'est quoi connaître quelqu'un?
Ça veut dire qu'il faut pas aller seul, il faut venir accompagner. C'est mieux de venir accompagner.
Oui, comment vous dites quelqu'un qui a connu son vivant, connaître, c'est quoi connaître?
Non, il a pas dit connaître, il a dit celui qui est proche. Il a dit plus on était proche du tzaddik de son vivant, et plus on est prioritaire lorsque le tzaddik est chez Hachem. D'accord? C'est explicite. Ok. Ça, c'est la lettre. C'est une lettre qui est très courte, mais franchement, on reste sur notre fin. C'est pour ça que plus tard, apparemment, on comprend d'ici. Je vais résumer la lettre, mais d'abord, je vous explique. Apparemment, les chassidim, ils se sont plaints que la lettre n'était pas assez claire. C'est pas écrit explicitement, mais c'est apparemment ce qui a dû se passer. Et donc c'est pour ça que plus tard, l'Admor HaZaken a écrit, et c'est très rare, je crois que c'est même le seul endroit où il y a ça dans les Kirat HaKodesh, il a écrit Bi'ur Al-Anal. Il a écrit une explication sur cette lettre. Un commentaire sur la lettre. De mémoire, hein, de ce que j'ai vu, je crois que c'est le seul endroit où il l'a fait. On l'a jamais vu. Vous avez déjà vu ça une fois? On a déjà vu ça une fois qu'il a refait une lettre pour expliquer? Jamais. D'accord? Donc déjà, je vais faire un point sur ce qu'il a expliqué dans cette lettre. Qu'est-ce qu'il a expliqué dans cette lettre? Donc, on rappelle. Il est venu pour consoler les chassidim suite au départ de Rabbi Nachman de Horodok. Comment il les console? Il a amené plusieurs points. Premier point qu'il a amené, il a dit, on voit que dans la Gemara, chaque fois qu'on dit qu'une personne est partie de ce monde, qu'est-ce qu'on dit? Shaval Kraim Lecholcha. Il a laissé sa vie. Ça veut dire quoi, il a laissé sa vie? Il n'a pas laissé sa vie. Il est mort. Je veux bien que tu me dises que... qu'on continue à penser à nous, mais c'est vrai qu'il a laissé sa vie. Alors, il a expliqué. Il a dit, c'est quoi la vie d'un tzaddik? Emouna, ira, ahava. trois points. L'aïmoun, ça veut dire la vie d'un tzaddik, il communique avec Kadosh Baruch Hu au travers particulièrement de ces trois points de Emouna, Ira, Ava. L'aïmouna Tachem, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est dans ça aussi qu'il va encourager ceux qui vont le fréquenter. Emouna, Ira, Ava. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils vont voir le tzaddiki, mais ils disent c'est bizarre, il était là en train d'encourager, etc. Nous, on voulait entendre un Dvartora. Et des fois, t'as pas de Dvartora. T'as rien. D'accord ? T'as pas de Dvartora. Il est là en train d'encourager. Un Arthur va venir de la lunette. Et tu ressors, t'as rien. T'as pas de Dvartora. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ne croyez pas que c'est fait exprès. C'est quoi la Kavana ? La Kavana est justement parce que le tzaddik, il dit moi, mon rôle, c'est ces trois choses-là. Tu veux aller voir un rave, va étudier chez un rave. D'accord ? Va étudier chez un rave, c'est pas mon rôle. Moi, c'est pour trois choses qui sont Emouna, Ira, Av. C'est voilà, c'est boosté, c'est un booster. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, c'est très simple. Il te dit, puisque la vie du tzaddik, c'est ça. Donc, ça, le tzaddik, de son côté, il peut continuer à nous le donner. Il peut continuer à nous booster. Il n'a aucun problème avec ça, le tzaddik. C'est ça, la vie du tzaddik. Et Mouna ira Ava. De son côté, le tzaddik, il pourra toujours continuer à te booster. Seulement, le tzaddik, il veut juste voir une chose. Il veut voir qu'on continue à suivre son chemin. Comme un père qui veut voir ses enfants. Il dit pour le tzaddik, c'est exactement comme si c'était comme avant. C'est même plus qu'avant, parce qu'il voit que son travail il a encore plus d'impact qu'avant. Donc pour lui, c'est exactement comme avant. Il voit toujours ses élèves en train de continuer, donc il dit, bah c'est bon, je les booste, ça marche, d'accord, la voiture elle démarre, je booste, ça démarre. Bah Ouh Hachem, tout va bien. Pour le tzaddik, tout va bien. Il booste en Emouna, Ira, Ava, la voiture démarre, bah Ouh Hachem, tout va bien. D'accord. Ce qu'il a expliqué ici, il a dit qu'en vérité, le tzaddik nous booste pas seulement dans Emouna, Ira, Ava, mais que finalement, il peut nous donner des brachot même sur les choses, pas seulement sur les choses spirituelles, mais même sur les choses matérielles. Et le dernier point qu'il a dit, c'est que plus on était proche du tzaddik de son vivant, et plus on est prioritaire pour que le tzaddik va s'occuper de nous en haut. Bon, ça c'est plusieurs, ça c'est les points qu'il a expliqués. Mais franchement, c'est pas très clair, on reste sur notre fin, on voudrait comprendre. C'est facile, je veux dire, c'est trop facile de parler comme ça. C'est trop facile. Quelqu'un, il part de ce monde, tu dis, vous inquiétez pas, il est là, il est pas parti, il est là, il continue à s'occuper de vous. C'est trop facile de parler comme ça. Bon, je veux dire, on a besoin de mots plus clairs et plus concrets. D'accord, c'est trop facile de dire, il s'est rien passé. C'est ce qu'on est en train de dire, finalement, il s'est rien passé. Finalement, c'est toi, tu le vois pas, et toi, quand tu partiras en haut, tu comprendras qu'en vérité, il s'est rien passé du tout. En vérité, il était toujours là avec toi. C'est très dur de parler comme ça. On a besoin d'explications. D'accord ? Donc c'est pour ça que l'Admor HaZaken a écrit plus tard une lettre qui s'appelle, on a dit, donc Biur Alanal. Explication sur cette lettre. Donc là, on est à la page suivante. Page 290.
C'est à la suite.
D'accord ? C'est sur ça la suite. Donc Biur, c'est un commentaire sur cette lettre.
Donc c'est pas un ordre chronologique, même les lettres, là. Donc je l'ai fait plus tard, il l'a pas fait juste.
Oui, mais enfin, c'est le thème, quoi. C'est la lettre 27 avec l'annexe. Ouais, c'est un annexe. C'est une annexe. Donc c'est comme, comment ils appellent, un avenant. Un annexe. Itab et Zohar Kadosh. On reprend ce qu'on a dit du Zohar, parce que apparemment tout était caché dedans. Des tzaddika, des itfata, là je vais m'arrêter un peu plus longuement maintenant, que un tzaddik qui part de ce monde, qui quitte ce monde, ishtakar, il se trouve, bechul ou almin, dans tous les mondes, yatir mi bechayoui, plus que de son vivant. On va reprendre ce Zohar là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit ce Zohar? Il te dit qu'un tzaddik qui part de ce monde, il se trouve dans tous les mondes, donc inclus le nôtre, plus que de son vivant. Il dit, v'tzarich lavin, il faut comprendre. Tinar be'olamot elyonim. Je comprends dans les sphères célestes. Je comprends que le tzaddik, quand il part de ce monde, avant, il était limité dans l'impact qu'il avait dans les sphères célestes. C'est que quand le tzaddik n'est plus limité par son corps, donc automatiquement en haut, il passe partout, quoi. Il a aucune limite. Je comprends. Tinar, ça va bien. Beolamot et l'unim, tu as la page dans les mondes d'en haut. Ishtakar yatir ba'oloto shama. Je comprends que dans les mondes d'en haut, il se trouve plus lorsqu'il est monté là-bas. Je comprends parce que avant il était limité dans Olamazé, dans ce monde-ci. Maintenant qu'il est monté chez Hachem, il est beaucoup plus à l'aise là-bas. Aval beolamazé. Mais dans ce monde, dans notre monde. Er ishtakar yatir. Comment tu peux dire qu'il est présent plus que de son vivant? Nous on demande déjà qu'il soit présent autant que de son vivant. Comment il peut être présent plus que de son vivant? Alors qu'est-ce que tu as dit, Yonel, tout à l'heure? D'accord? Tu as dit que comment on peut être présent plus que de son vivant? Parce que tu as dit qu'il n'est pas limité par son corps. J'ai compris. Mais ça ne répond pas vraiment à la question. Parce que concrètement, le tzaddik n'est pas présent comme dans son vivant. De son vivant, il avait un corps, en chair, en os, il avait des mains, des pieds, il pouvait nous parler, il pouvait l'entendre.
Et pour autant, est-ce que le corps, il limite le tzaddik? Je ne suis même pas sûr.
Je n'ai pas dit qu'il limite. J'ai dit comment le Zohar peut te dire que le tzaddik est présent dans tous les mondes plus que de son vivant? C'est faux. il n'est pas présent dans ce monde plus que de son vivant. Parce que de son vivant,
il communique plus facilement.
Donc on pouvait communiquer avec lui, donc il était présent, on le voyait. Alors je veux bien que tu me dises, il est, en vérité, il est aussi présent, ça je veux bien. Mais tu me dis qu'il est encore plus présent, comment vous comprenez ça? Est-ce que c'est possible de comprendre ça?
C'est qu'il n'est plus limité.
Et alors c'est plus limité? Mais il n'est pas plus présent qu'avant? Non, je pense que oui. Mais non, encore une fois, je répète.
On a présent que pas agir.
Non. Le tzaddik avant, je connaissais son adresse. J'allais 770 Eastern Parkway, d'accord. Je rentrais, je prenais le dollar, je parlais, je voyais le tzaddik, je l'entendais.
C'est au Maroc.
D'accord. C'est à Fès. Alors, d'accord, je connaissais l'adresse. Ça veut dire, je viens, je rentre, je le vois. Tu peux pas me dire que maintenant que je le vois pas, il est encore plus présent qu'avant. Je veux bien qu'ils me disent qu'il est comme avant, que rien n'a changé.
Tu as besoin d'aller là-bas pour avoir le tzaddik. Hein. Tu es où que tu sois, tu peux penser à lui.
Non mais.
Oui, mais il manque des choses. Il manque des choses. Je ne peux pas communiquer comme avant. Tu peux me dire qu'il est présent plus qu'avant. Tu peux me dire qu'il y a des choses qu'il y a maintenant. Tu peux me dire qu'il y a des choses qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant. Ça, tu peux me le dire. Tu ne peux pas me dire qu'il est présent plus qu'avant. Tu peux me dire qu'il est présent différemment qu'avant.
C'est un autre type de communication.
Tu peux me dire qu'ils ont senti quelque chose de plus de présence qu'avant.
Mais comment c'est possible? Techniquement, c'est pas possible.
Ça veut dire que le fait de mourir pour un tzaddik, ça apporte quelque chose de plus.
Mais comment c'est possible? Je vous pose la question concrète. Concrètement, comment c'est possible? Concrètement, techniquement, c'est pas possible. Tu ne peux plus lui parler. Donc il n'est pas aussi présent qu'avant. Il est peut-être présent différemment.
Non, mais en tout cas, pour un artiste, son œuvre est plus connue de sa mort que de son vivant.
Son œuvre.
Son œuvre.
Avant
pour son... On peut parler de son œuvre.
Mais quand tu dis.
Alors, dans ce cas-là, tu peux dire que l'œuvre du tzaddik ouais. est présente plus, plus après. Mais c'est pas lui.
C'est pas
ce qu'a dit le Zohar. Le Zohar n'a pas dit l'œuvre du tzaddik. Il a dit le tzaddik, la vie du tzaddik. Le tzaddik est encore plus vivant qu'avant. Je comprends pas ce que ça veut dire. Il est vivant différemment, parce que c'est vrai qu'il est vivant qu'avant. De là, la clé de la réponse est la suivante. C'est qu'en vérité, on va devoir expliquer qu'est-ce que c'est la vie d'un tzaddik. C'est la clé de la réponse. Pourquoi on s'est bloqué? Pourquoi on est devant un mur? Parce que pour nous, la vie d'un tzaddik, c'est quoi? C'est tout d'abord le fait qu'il vit en chair et en os, qu'on peut lui parler, qu'il peut nous parler. C'est pour ça qu'on a dit, mais c'est plus comme avant. Le Mora Zakai, il va te dire, mais attends, tu crois que c'était ça la vie du tzaddik? C'était les mots qui sortaient de sa bouche? C'était ça la vie du tzaddik? Il va nous redéfinir complètement la vie du tzaddik. Et quand on va comprendre qu'est-ce que c'est la vie du tzaddik, automatiquement, on va comprendre que ça, c'est pas parti.
Donc, tu es en train de dire que sa vie était déjà particulière, et donc
exactement.
Après sa vie...
Voilà, c'est-à-dire sa vie est toujours particulière, elle n'est pas comme nous. Et donc, il garde toujours sa particularité, plus qu'avant. Oui. Que c'est-à-dire la vie particulière qu'il y avait avant, elle va être encore plus forte. Il va expliquer. Vous voyez où je veux en arriver? Parce que sinon, on ne comprend pas, sinon il y a un problème.
C'est vrai.
Je relis la question. « Vetzarech lehavin », il faut comprendre. « Tinar », donc deuxième ligne. « Tinar, beolamot, elyonim », je comprends dans les sphères célestes. « Ishtakar, yatir, baloto, shama ». Je comprends que dans les sphères célestes, il est encore plus présent, Baal Otoshama, lorsqu'il est monté là-bas. Ça, je comprends. Que là-bas, il est présent plus qu'avant. Aval Berolamazé, mais dans ce monde. Eh, Ishtakar Yatir. Comment tu peux me dire qu'il est présent plus qu'avant? C'est pas possible, il peut être présent plus qu'avant. C'est la question qu'on a posée. Il peut pas être présent plus qu'avant. Il est parti de ce monde. Viesh le Faresh D. Viesh le Faresh, on peut expliquer ça. Al Derech Mashiki Balti Al Mahamar Abotenu du Ronal Uracha. Ce que j'ai entendu. Donc apparemment, quand il dit j'ai entendu, il a dû entendre de ses maîtres, donc probablement de ce maître qui est parti. Des Shavak Kraim le Cholchai. Et donc il dit, j'ai entendu, à propos de ce que les Rachamim ont dit, sur Shavak Kraim le Cholchai, donc rappelez-vous, qu'il a laissé la vie à tout le monde, il reprend la lettre. Il dit comme ça, Kanoda, comme c'est connu. Et là, vous allez voir qu'on va comprendre qu'en vérité, dans la lettre d'avant, on n'avait rien compris. Kanoda, comme c'est connu. Shechaye Atzadik Enam Chaim Psariim. La vie d'un tzaddik n'était pas, dès le départ, c'était pas une vie qui était physique. C'était pas une vie physique. Ki'im chayim ruchanim. Dès le départ, la vie du tzaddik était une vie spirituelle qui est chez M, emuna, ira, ve'ava. Donc là, vous voyez, il dit explicitement, la emuna, ira, et la'ava. Ki? Ve'emuna active. À propos de la emuna, c'est écrit, ve tzaddik, ve'emunato irie. Que le tzaddik vit avec sa emuna. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Ou be'ir active, ve'ir atachem le chayim. Ubeav active, rodev zaka va chesed im tsachaim. Le chesed ou av. D'accord, ça c'est trois choses. Donc c'est quoi les trois choses que le tzaddik avait de son vivant? C'était quoi la vie du tzaddik? C'est la emuna, ira et av. Maintenant regardez ce qu'il dit ici. Ou shlosha midot elu, c'est trois choses là. La emuna, l'amour, la crainte et l'amour. Em bechol olam ve olam adruma maalot. C'est des choses qui existent toujours, qui sont toujours présentes. C'est pas quelque chose qui est limité au olamazé. C'est quelque chose que même tu peux monter au plus haut des olamot, il y aura toujours ces trois choses-là. Emuna, ira, ahava. Akol, lefi, prinat, maalot, aolamot, zealze, peder, ila, velul, kanuda. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en vérité, on explique que la manière comment on va monter dans les sphères célestes, c'est comme ila, velul. C'est ce que c'est ila, velul. Ila, velul, c'est cause à effet. C'est comme une chaîne. Ça veut dire que pour monter à l'étage numéro 2, il faut d'abord être passé par l'étage numéro 1. Et pour monter à l'étage numéro 3, il faut d'abord être passé par l'étage numéro 2. Et pour monter à l'étage numéro 4, il faut d'abord être passé par l'étage numéro 3, etc., etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu prends les acquis d'avant et grâce à ces acquis, tu vas monter. Donc le tzaddik, même lorsqu'il part de ce monde, il continue toujours à grimper, toujours dans ces trois axes qui sont Emouna, Ira, Ahava. Et toujours, il se base toujours sur ces acquis qu'il avait dans ce monde-ci. Maintenant, j'ai toujours pas répondu à ma question. Pourquoi le tzaddik est plus vivant dans ce monde, plus vivant qu'avant lorsqu'il est parti de ce monde. Déhiné. Yot, tzadik kray, alpene adama. Lorsque le tzadik vivait sur la terre, et qu'on a dit que c'était quoi les trois points sur lesquels le tzadik se focalisait? Toujours, on a dit, emuna, ira, ahava. Ayu, shlosha midot elu, betor kli ou levou shelahem. Lorsque le tzadik vivait dans ce monde, on va prendre un exemple. Par exemple, le rabbi, il voulait amener la Emouna, Ir'a et Ava à un chassid. Comment le rabbi pouvait le donner à un chassid? Le chassid était obligé de venir à un moment particulier pour voir le rabbi. Donc il devait voir son rabbi. Il devait le voir. Et s'il ne le voit pas, il devait lui envoyer une lettre. D'accord? Il devait communiquer. Il devait l'entendre. S'il n'avait pas ça, le tzaddik était limité par son corps. Ça veut dire que le tzaddik, la vraie vie du tzaddik, c'est quoi? C'est ces trois choses-là. Emouna, Ir'a, Ava. Mais dans la vie du tzaddik, le tzaddik était bridé. Parce qu'il était obligé d'utiliser son corps pour exprimer la communication de Emouna Ira Ahava. Donc il était obligé d'utiliser tous les moyens que son corps lui a donné. Donc ça veut dire que quand arrive le moment où le tzaddik doit dormir, parce qu'il est fatigué, et que moi j'ai envie maintenant à ce moment-là de booster ma Emouna, est-ce que je peux booster ma Emouna? Non. Pourquoi je pouvais pas? Parce qu'il dormait. Je vais demander une bracha maintenant, un tzaddik qui dort. Est-ce que je peux lui demander une bracha quand il dort? Non. Parce que le tzaddik, lorsqu'il est dans ce monde, c'est quoi la vraie vie du tzaddik? C'est toujours ces trois axes-là. Mais lorsque le tzaddik est dans ce monde, sa vraie vie qui est Emouna, Ira et Ahava est bridée. Pourquoi elle est bridée? Parce qu'elle dépend de son corps, elle dépend de son habilité à parler, elle dépend de son habilité à entendre, elle dépend de son habilité à être présent. Elle dépend de beaucoup de choses qui vont être bridées. Donc c'est pour ça qu'après le tzaddik, lorsqu'il va être malade, eh ben il pourra pas entendre de la même manière. Bien sûr que le tzaddik est toujours là, mais concrètement, quand il est dans ce monde, il est bridé. Il est limité par les limites de ce corps. Au moment où il mange, au moment où il est occupé par d'autres choses, ça le bride, ça le limite. Comme il dit ici, c'est Betor Keli ou les Vush Shelahem. Dans les mots du Tanya, c'est que lorsque le tzaddik était dans ce monde, ces trois choses-là qui sont Emouna, Ira, Ahava, étaient limitées dans un Keli, dans un réceptacle, et dans une manière spécifique d'exprimer. Ça veut dire que le tzaddik, il avait une manière spécifique, il peut pas avoir 10 manières d'exprimer ira ahava. C'est-à-dire qu'il a une manière d'encourager, par exemple, ses chassidim, et ceux qui aiment cette manière, tant mieux, ceux qui n'aiment pas, ben, ils accrocheront pas. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il est limité par une seule manière d'exprimer.
Ouais, il est dans son corps. En même temps, c'est la manière qui est la plus...
Tu as raison.
Qui est équivalente. Si tu prends d'autres manières, mais moi, ça me parle pas, tu me parles un autre langage.
Tu as raison.
D'être humain.
Ça, c'est le scoop qui va te dire ici. Ouais. Il va dire ici, non seulement, il est comme avant, mais il est encore mieux qu'avant. Parce qu'avant, il était limité par les limites de ce corps. C'est-à-dire que forcément, il devait avoir un style particulier. Chaque tzaddik aura son style. Un keli, un réceptacle, un levouche, un vêtement. Comme un vêtement. C'est quoi un vêtement? Un vêtement, ça, c'est-à-dire, tu as par exemple quelqu'un qui a envie d'être classe. Voilà. Imaginons que tous les tzaddikim, c'est toujours la vie d'un tzaddik, c'est la classe. D'accord? Donc, mais une personne veut être classe. Maintenant, pour être classe, si tu vas décider de mettre un vêtement, eh ben, t'as plusieurs manières d'être classe. Il va mettre un vêtement comme ça, il va mettre un vêtement comme ça. Et forcément, c'est pas tout le monde qui va accrocher de la même manière. T'en as un pour lui, il va dire, ah, mais ce vêtement-là, il est pas classe. C'est vrai, non, il est hyper classe. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Ça veut dire que, quand le tzaddik est dans le monde ici-bas, la communication du tzaddik avec nous, est subjective et donc est limitée par son corps, est limitée par le style que le tzaddik va se donner. Et donc t'as des gens qui vont accrocher, t'as des gens qui vont pas accrocher. C'est ce qui explique le fait qu'on a des tzaddikim, que de leur vivant, il y a des choses qui passaient pas, et dès qu'ils partent de ce monde, ça passe comme une lettre à la poste. C'est la raison. Parce que lorsqu'ils étaient dans ce monde, ils étaient limités par un style qu'ils devaient avoir, parce qu'il correspondait à leur corps. Mais quand ils partent de ce monde, il n'y a plus ce style spécifique. Donc automatiquement, il n'y a plus de limite. Donc les trois vecteurs qui sont Emouna, Ira, Ahava, ils peuvent passer par n'importe quel vecteur. Et donc, ils sont beaucoup plus présents qu'avant. Parce que leur vraie vie, c'est quoi? C'est Emouna, Ira, Ahava. Seulement toi, avant, tu les voyais au travers de leur corps. Mais leur corps, en vérité, si tu poses la question, tu lui dis, est-ce que vous êtes content que ça passe par votre corps? Il va te dire, non, je ne suis pas content que ça passe par mon corps, ça me bride. Donc quand le tzadik part de ce monde, en vérité, on l'a débridé. Donc pour lui, c'est encore mieux qu'avant. Il préfère comme ça. Il préfère être comme ça parce qu'en vérité, il peut donner beaucoup plus qu'avant. Il est complètement illimité. Ça veut dire que du côté tzadik, il peut donner beaucoup plus et il est beaucoup plus présent maintenant qu'avant. Vous comprenez ce qu'il veut dire ici? Mamash, ça veut dire. Et là, on le voit clairement. Chez combien de tzadikim on a vu ça? D'accord? Je vous donne un exemple. Vous parlez du rabbi ou de Baba Salé ou de n'importe qui. C'est des tzadikim que de leur vivant, ils avaient beaucoup d'ennemis. De gens qui... D'accord? Voilà. Voilà, pas mal. Ah. C'est ma fille. Ah, c'est des sonneries. C'est une sonnerie spéciale pour moi. Ah, pour dire la pipelette.
Ah. J'appelle pour rien. Donc, quand c'est grave, on laisse un message.
Ah, bah, c'est pas pour rien. Bon.
Non, mais là, c'est pas un message.
Ah, donc il dit comme ça. Il dit. Vecholt, ça veut dire qu'on a vu beaucoup de tzadikim comme ça, que concrètement, c'est seulement après qu'ils sont partis de ce monde qu'on a compris réellement qui ils étaient. Et que c'est là qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas avant à communiquer, et qu'après, du coup, on voit comment chacun va communiquer avec le tzadik à sa manière. Vecholt Talmidav, tous ses élèves. Non, j'ai sauté une ligne, pardon. Viprinat Makom Gashmish, Viprinat Nevech, Shorbegoufa. Vecholt Talmidav, Enna Mekablim, Rak, Aharot, Midot, Elou, Vezivan. Il dit, quand tu voyais le tzadik, on va demander c'était quoi le tzadik pour toi. Il va dire, ah, pour moi, le tzadik, c'était quand j'étais là, j'entendais comment ils m'encourageaient, les livres de Torah, etc. Il dit, mais ça, c'était seulement un vecteur que le tzadik utilisait pour transmettre une de ces trois choses-là. Donc toi, quand tu te rappelles du tzadik, tu dis, mais le tzadik, il m'a donné ça, je ne l'ai plus. Et tu dis, mais non. Le tzadik, son but, n'était pas de te donner ça. Le tzadik, son but, c'était de développer Emouna Ira Ahava. Et donc maintenant, si ce n'est pas par ça, il aura d'autres méthodes qui seront peut-être beaucoup plus faciles pour toi et pour lui. Pour toi et pour lui. Ah, qu'est-ce qui va te manquer? Ce qui va te manquer, c'est que tu ne vois pas. Ça veut dire qu'en vérité, finalement, le plus dur, c'est d'y croire. Il suffit d'y croire. Le plus difficile, c'est d'y croire, de croire à ce qu'on est en train de nous dire ici. D'accord? Si tu crois à ce qu'on te dit ici, ça va être plus facile pour le tzadik et pour moi. Parce que le tzadik, d'abord, il est débridé. Et moi aussi, il y a des choses que peut-être avant, j'aurais pas accroché. Et maintenant, à tous les coups, je peux accrocher. Donc maintenant, ça veut dire finalement, la seule chose qui est plus difficile, c'est qu'avant, je parlais avec quelque chose qui était tangible, qui était réel. Maintenant, je parle avec quelque chose que pour moi n'est pas réel. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais si je traverse cet handicap, si je traverse ce cap, c'est illimité pour le tzadik et pour moi. D'accord? Donc c'est extraordinaire.
Non, mais comment ça marche? Comment ça...
La vraie vie du tzadik, c'était quoi?
Oui, voilà, c'est ce qu'on a dit.
D'accord? C'était...
Oui.
Donc le tzadik...
C'est par son œuvre.
Comment le tzadik avant, il communiquait avec toi? Il communiquait au travers d'un dvartora spécifique ou quelque chose de spécifique. Le tzadik, comme le rabbi disait toujours, pour la vie précédente, il disait, le rabbi, il trouvera déjà la manière comment communiquer avec nous. Il trouvera la manière d'envoyer sa bracha. D'accord? Ça veut dire que, moi, avant, tu comprends, quand je posais une question, ben, je devais avoir une réponse soit oui, soit non, et pour moi, c'était clair que, ben, c'était, j'attendais la réponse. Et ce qui se passe ici, il répond pas. Et si, à ce moment-là, il peut pas te répondre oui ou non. Quand tu vas te demander une bracha, et qu'on va te donner une bracha d'en haut, ça va être beaucoup plus fort parce que c'est pas limité par un oui et par un non. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est le tzadik qui s'arrangera pour que ça se passe comme ça doit se passer. Donc c'est beaucoup. Il suffit d'y croire. Si tu y crois, c'est beaucoup mieux pour le tzadik que pour toi. C'est beaucoup plus facile. Parce que c'est débridé.
Oui, mais comment on a la réponse? Comment c'est si on est dans le vrai?
T'as pas besoin de réponse. Explique ici. Le fait que t'as besoin d'une réponse, c'est que c'était un vecteur par lequel le tzadik communiquait avec toi. Tu comprends? Il y avait un vecteur par lequel il communiquait avec toi. Donc le vecteur, c'était la réponse. Mais maintenant, quand le tzadik qui passe... Hein,
mais c'est le côté pratique, là.
Ah oui,
c'est ce que je dis.
Tu veux t'adresser à un tzadik. D'accord? Tu veux vraiment une bracha. Si t'as la emouna, qui est la bracha, elle est aussi forte qu'avant, et qu'avant, il t'aurait donné oui ou non, et que maintenant, il va s'arranger pour te pousser vers le oui ou vers le non, ça va être encore plus facile pour lui.
Mais si tu attends une réponse...
Quoi?
Tu as un conseil.
Un oui ou un non, t'attends une réponse.
Si tu demandes une bracha...
Une bracha, oui. Une bracha, c'est te part, c'est que tu as décidé. Et
ben, tu restes persuadé que le tzadik va envoyer la bracha pour que la manière comment Akadash Baruch va t'envoyer, ce que tu vas faire, ce sera ce que tu devras faire. Comme il disait le rabbi, il disait à Kadosh, le rabbi il s'arrangera déjà pour t'envoyer la réponse. Alors ça peut être par quelque chose que tu vas, combien de fois ça nous arrive ça. T'as une question que tu te poses, tu poses une question, et après juste après par hasard tu ouvres un texte, d'accord, et tu étudies un texte du rabbi, ça parle plus de ça.
Mais comment interpréter ça, et que, ça c'est la réponse, et ça c'est pas la.
C'est évident, c'est un peu comme la blague, là, celui qui le rabbin dans la ville, tu sais, il y a l'inondation et puis tu lui envoies le. Des fois, tu comprends pas forcément le message. Alors, tu vois le rabbi, tu lui demandes est-ce que c'est une bonne affaire pour moi, il va te dire oui, non.
Bien sûr.
Tu te dis est-ce que finalement j'ai bien compris
avec les signes.
Bien sûr.
Mais je pense que si tu crois réellement dans ce que tu demandes, et tu t'aperçois.
Quand tu crois réellement,
tu t'aperçois que la réponse, elle arrive même après.
Elle arrivera la réponse. Parce que il s'arrangera pour te guider dans la réponse.
Tu te dis c'était ce que je.
Moi, je l'ai vu clairement. Enfin bon, plusieurs fois. Clairement.
Non, mais moi, je pense que c'est tout part de la Emouna, justement.
La Emouna, que moi, j'ai demandé une bracha, quand je demande qu'on me guide, d'accord, et qu'on s'arrangera, et que tu vas te demander au rabbi de te donner une bracha pour te guider, et que on va te guider de manière à ce que ce que tu feras, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut avoir la Emouna, il faut y croire. Parce qu'à un moment, tu vas dire, mais attends, c'est l'imagination.
Non, mais tu peux être dépité, c'est sûr.
D'accord.
Si on te sort un truc où tu n'as pas de réponse.
Le plus dur, c'est d'avoir la Emouna. C'est le plus dur. Le plus dur, c'est de croire que, de se dire qu'il m'a entendu et il va s'arranger pour que ça se passe bien.
Qui dit que c'est pas lié de Sarah, qui t'envoie une réponse, l'autre.
Qui a dit qu'il faut une réponse? Excuse-moi, qui a dit qu'il faut une réponse?
Bah, moi, j'ai une question, je veux une
réponse. D'accord. Qui t'a dit que t'avais une réponse?
Qui me faut une réponse?
Gros carte bien, là.
Qui t'a dit qu'il faut une réponse?
Moi, il me faut une réponse.
T'as un problème. Tu poses le problème. D'accord.
Non, quelque part, tu te poses. Est-ce que c'est la bonne cala?
Et ben, voilà, je donne un exemple. Avant, très simple, je vais commencer. Avant, quand on faisait un chidour, on demandait une bracha au rabbi. On demandait au rabbi, et le rabbi devait donner son esquem, son accord. Oui ou non. Des fois le rabbi disait oui, des fois le rabbi disait non.
Donc c'était clair.
D'accord, donc c'était clair. C'est-à-dire qu'une personne qui le rabbi avait dit oui, d'accord, même si après ils avaient des problèmes chez la mec, tout ce que tu veux, ils ont dit attends, le rabbi il a dit oui. C'est qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc le problème est chez nous, donc on va s'arranger. Comment on fait aujourd'hui?
Ça scelle, d'accord, un peu. C'est bien, ça scelle.
Ah, c'est clair. C'est parce que le rabbi disait non des fois. Des fois le rabbi il répondait pas, tu vois, pendant. On savait que des fois il y avait des codes, si tu veux. Et quand le rabbi répondait. Quand le rabbi répondait bracha vatlacha, c'est que c'était ok. Et tout, si tu prends par exemple mes parents, etc., ils ont envoyé le nom au rabbi, le nom, donc N-O-N, d'accord. Et le rabbi, il a répondu bracha vatlacha. C'est-à-dire qu'il a dit oui, c'est bon, ils sont ok.
C'est-à-dire que même quand ils se chamaillent.
D'accord. Vous savez, une fois, il y a une personne qui était à la yeshiva du 770. Ses parents, ils l'ont mis à la yeshiva parce que c'était une yeshiva qui est à côté de chez lui. Et à l'époque, aux États-Unis, c'était vraiment pas du tout populaire de laisser pousser la barbe. Alors, donc, c'était un jeune homme qui n'était pas Chabad, mais il a vu que tout le monde laissait pousser la barbe, on lui a expliqué l'importance de laisser pousser la barbe, alors il a laissé pousser la barbe. Alors, après, donc, c'est comme ça, il a grandi, et à un certain moment, il a proposé une fille en chidour, bien sûr, une Chabad. Et là, sa mère, elle est venue, elle a dit, attends, non, c'est fini, c'est l'histoire, là. D'accord, tu vas pas te marier avec celle-là, on va te marier avec une fille de chez nous, comme on connaît, d'accord. Donc, la mère, elle voulait pas. Alors, le garçon, il sait qu'il y a... Ce qu'il dit la halakha, que la halakha a dit qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas l'obligation d'écouter ses parents, notamment sur ces deux domaines-là, sur le domaine du limud et Torah et sur le domaine du shidour. Donc, ce qu'il a dit à sa mère, gentiment, elle a dit écoute, je ferai ce que je veux faire. Vous voulez venir au mariage, vous venez, mais je me marierai avec celle que j'ai envie. Alors, la mère, elle n'en pouvait plus, et une fois, elle débarque au Beit HaMidrash. Maintenant, le khatan, il est khatan, il va se marier dans quelques semaines. Elle débarque au Beit HaMidrash. Une femme, tu vois, elle rentre, elle court au Beit HaMidrash, elle va devant le siège où son fils est en train d'étudier, elle lui met une claque. Et elle sort, comme ça. Elle est juste pour dire, voilà, je suis pas d'accord. D'accord? Vous êtes malade, je suis pas d'accord. Alors, elle fait comme ça. Alors, lui, il est là, par respect, il dit rien, pour sa mère, qui est Boudavèv, il n'a rien le droit de dire. Mais ses amis qui sortent, donc ils suivent la mère, ils disent, excusez-moi, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, oui, il m'écoute pas, il dit, mais attendez. Vous saviez où vous l'avez mis, votre fils? Vous l'avez mis dans une yeshiva Chabad. Qu'est-ce que vous lui voulez maintenant? Il est comme ça. Et écoutez, si vous avez un problème, allez peut-être prendre rendez-vous avec le rabbi, allez lui parler. Peut-être que lui, si le rabbi lui dira, là, je peux vous dire à 100%, il écoutera. Et ben, elle dit vraiment, si le rabbi lui dira, il écoutera. Il dit, le rabbi dira, ne discute pas. Prends rendez-vous. Quelques jours plus tard, on le donne rendez-vous. Et là, donc, les bachorim, il la voit, c'était le sortant, il la voit, elle est comme ça avec son mari, elle est comme ça, elle va tout casser, quoi. Et il la voit, il rentre. Et il voit quelques minutes plus tard, elle sort, elle appelle son fils et lui dit c'est bon, pas de problème. Alors là, c'est les Bahorim qui disent, excusez-moi, il faut vous, on, vous nous devez des explications. Votre fils fait ce que vous voulez, mais nous, vous nous devez des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a dit, quand je suis rentré chez le rabbi, moi, je commençais à... D'accord, mes nerfs ont commencé à monter, j'ai dit, oui, regardez ce que vous avez fait de mon fils, il allait se pousser la barbe, et qu'est-ce qu'il va devenir aux États-Unis, etc.
Il est devenu Lubavitch.
D'accord.
Il est devenu Lubavitch.
Alors, il dit, en plus, si vous lui donnez une fille, je pense que cette fille n'est pas faite pour mon fils. Voilà, je suis sa mère, je pense que cette fille n'est pas faite pour mon fils. Elle a dit, quand j'ai dit ça au rabbi, m'a regardé, il m'a dit, écoutez, vous savez, Chaque fois que vous avez dit à votre fils que vous n'étiez pas d'accord du chidour, votre fils m'a écrit. Il m'a posé la question, il m'a dit, ma mère n'est pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Et à chaque fois, c'est le Rav Groner qui nous a raconté cette histoire, et à chaque fois que votre fils m'a posé la question, j'ai regardé, ça il l'a dit à la mère, hein, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais en tout cas elle a raconté texto, j'ai regardé dans les livres des chidourim d'en haut, et j'ai vu aucune incompatibilité. Je ne voyais pas pourquoi dire non. Et à chaque fois que vous revenez me voir, enfin que le fils il m'envoyait un papier pour dire voilà ma mère, je me disais peut-être que j'ai pas regardé encore un truc. Et à chaque fois qu'on m'a envoyé un papier, je suis reparti voir encore et j'ai revu tous les livres de Shidourim pour revoir est-ce qu'il y avait pas une incompatibilité. Et à chaque fois j'ai vu aucune incompatibilité. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une fille qui est compatible à 100% avec votre fils. Pourquoi vous voulez pas qu'il soit Shidour? Lorsqu'elle a entendu ça, la mère, elle a dit, bon, si le rabbi a dit ça, j'accepte. D'accord? Pour montrer quoi? Pour montrer que, pourquoi je racontais ça? J'étais en train de dire qu'avant, lorsqu'on demandait une bracha au rabbi pour un shidour, on demandait une bracha, et donc le rabbi voyait dans les livres du shidourim.
Aujourd'hui, comment on fait?
Oui ou non?
Pour les non-mariés encore.
D'accord?
La même situation aujourd'hui, quand qu'est-ce
attends, une seconde. Moi, je connais des gens aujourd'hui, que le rabbi l'avait dit oui. Et ils sont pas mariés avec... Le rabbi l'avait dit oui, ils sont certains chidour, ils étaient ensemble, donc etc. Ils allaient pratiquement finaliser, et après ça, ils ont cassé. Et leurs amis ont essayé de tout faire pour essayer de leur dire, mais attendez, le rabbi l'a dit oui, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Et ils ont cassé, ils se sont remariés, et très souvent, il y a eu des catastrophes après. Parce que quand le rabbi l'avait dit oui, ça veut dire que maman, c'est des gens compatibles. Bon, je refais la parenthèse. Alors comment on fait aujourd'hui? D'accord? Aujourd'hui, ce qu'on fait, on sort en chidour, donc avec bien sûr un chatran, et dès qu'on pense qu'on est fait l'un pour l'autre, on va aller au OL du Rabbi, et on va demander une bracha, que tout se passe bien. Pour moi, c'est encore beaucoup plus fort, ça. Parce que avant, t'avais soit un oui, soit un non. Tu pouvais avoir un non. D'accord? Maintenant, c'est pas un oui ou un non. Si tu demandes une bracha, que ça se passe bien. Et que si ça doit pas se passer, que ça passe, bon, des fois ça casse. D'accord?
Ouais, donc
mais ça demande une émouna beaucoup plus forte.
Ouais, donc en premier chidour, ça va être, on va demander la bracha.
Non, non, ah, justement, oui, non.
Si c'est ça.
Parce que c'est pas compatible.
La bracha, quand il faut qu'il y ait une réponse verbale.
Non, mais si au premier chidour, on dit bon, on va demander la bracha.
Le critère que le rabbi dit oui, c'est un critère important, mais à part ça, il doit avoir un critère de Meshichat Halev, c'est-à-dire qu'on doit avoir une attirance. D'accord? Et une fois que tu as cette attirance, on prend l'avion, le khatan et la kala séparément, on l'a fait. D'accord? On va chez le rabbi. D'accord? On va chez le rabbi.
Séparément.
Parce que tant qu'on n'est pas marié, on prend pas un avion ensemble. Ouais.
Il y a une ouais. Spécifique.
C'est une khumra, ouais. On prend pas l'avion ensemble, on prend pas de photo ensemble aussi. Ouais. Ça, c'est une khumra chez Chabad.
Non, mais c'est bien de...
D'accord. Ouais. Et donc, je t'arrête de dire que pour moi, c'est encore plus fort maintenant.
On prend pas de photo...
ensemble. On prend pas de photo ensemble. D'accord. Parce qu'on s'est pas marié. On n'est pas marié. On n'est pas marié, on s'est juste engagé l'un pour l'autre. Mais il n'y a rien encore. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun éther, par exemple, même de
si
sortir tard le soir.
Mais
non,
si
ou
on
de...
sait que tu t'es déjà, t'as déjà fait.
Là, ça à l'arrivée, ça vaut rien.
Fiançailles,
c'est un engagement.
C'est de l'avoir. Si on sait, tu fais avant
le. Un fiançailles, c'est contractuel, c'est tout.
D'accord.
Mais je veux dire, à l'arrivée, pour l'approche. De... Ça ne permet rien du tout. Il n'y a rien qui est permis. D'accord. Là, on fait attention. Même le rabbi limitait beaucoup. Il disait que, par exemple, même parler une semaine. Parler deux. Non, c'était. On peut se voir une fois par semaine, une fois qu'on a avant qu'on a officialisé, d'accord, avant qu'on s'est fiancé, dans ce cas-là, bon, il faut se voir autant de fois qu'il faut pour décider. Une fois que tu as décidé que c'est la bonne, eh ben on se voit une fois par semaine, maximum, d'accord. Et on s'appelait même, je crois, ouais, deux, trois fois, c'était, je crois pas. Enfin, il y a des consignes très claires, quoi, que le rabbi l'avait dit au Rav Groner. C'est-à-dire le minimum du minimum. Parce qu'on considère qu'une fois qu'on s'est déjà engagé, il faut se marier le plus tôt possible. Ça sert à rien de traîner maintenant. Pourquoi ça sert de traîner? Il faut se marier le plus vite possible, et après, c'est là que la vie va commencer. D'accord? Bon, donc je continue. Donc, pour moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est encore plus fort qu'avant. Mais il faut avoir l'émouna. J'avoue que c'est dur, des fois. Des fois, c'est dur parce que des fois, t'as des tarés qui disent, mais attends, il n'y a rien, t'as rien
c'est
vu.
C'est la roulette russe.
T'as rien vu, t'as rien, il n'y a rien. Et se dire que non, en vérité, c'est encore plus fort qu'avant. Maintenant, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que c'est même pas que j'attends une réponse. C'est que je demande de Rabbi une bracha et le chemin que je vais prendre, ça va être le bon chemin. C'est encore beaucoup plus fort. Ça n'a rien à voir. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quelque part, j'ai quelque part la force d'un tzaddik. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, un petit peu, ce que j'ai touché un peu à ça tout à l'heure. Je deviens l'ambassadeur du tzaddik. C'est encore beaucoup plus fort. D'accord ? Bon, c'est déjà là, on aurait pu parler encore longtemps. Mais
si tu n'as pas la Emouna, tu prends même pas l'avion. Si tu n'as pas une certitude oui. au fond de toi, tu vas même pas là-bas pour aller demander une bracha. Donc
bien
tu
sûr.
Dois être convaincu avant d'y aller.
Oui. Je vais pour annoncer au rabbi, voilà ce que j'ai choisi.
Moi, je pense que tu n'y vas pas quand tu dis ça. Je pense pas que tu vas y aller alors que tu es encore habité d'un doute.
Ah ben non, bien sûr.
Donc là, quand tu débarques, tu as besoin
de... Oui, non. Toi, tu es sûr de toi, pour toi,
oui.
pour tes sentiments. Mais d'où tu sais que le rabbi donne la bracha?
Justement, tu vas...
Justement.
Peut-être ça veut... le fait d'aller aussi
comme ça... Eh ben, tu vas aller là-bas, quand tu vas aller au OL, d'accord?
Quand tu reviens de là-bas, c'est arrivé que des gens, d'un coup, ils sont aperçus.
Non, justement, c'est ça la force. C'est non. que tu vas aller là-bas, la force...
Tu n'y vas même pas.
Non,
d'accord.
Mais imagine que tu ressors les deux.
Non, parce qu'on dit qu'une bracha, c'est les mains fréales. Une bracha, c'est même qu'on appelle...
Rétroactif.
Ça veut dire que la bracha, elle a un effet même rétroactif. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on considère, tu considères, que tu vas demander une bracha, et que le chemin que tu vas prendre sera le bon chemin.
Donc en réalité...
Donc ça veut dire que tu vas être persuadé... J'y suis déjà. Et que je lui dis, j'ai pris le chemin, ça ressemble un petit peu comme quelqu'un qui dit, voilà, mon père il peut tout payer, j'ai pris la route, tu te débrouilles, tu viens. C'est un petit, voilà, je suis parti à Honolulu. Et comme je sais que j'ai un père qui est milliardaire, je lui dis, tu te débrouilles, je suis là-bas, tu viens me chercher. D'accord, c'est pas, est-ce que je peux aller, je peux pas aller. Je prends l'avion, je prends le bateau, je me laisse aller dans la mer, tu te débrouilles, tu viens me chercher. C'est encore plus fort. Ça veut dire que partout où tu iras, il te suivra. Il n'est pas limité par un oui et par un non. Ça, c'est, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que
ça demande une
émouna, une grande émouna.
Ça peut, tout commence par là.
D'accord. C'est pour ça que le rabbi disait qu'on n'a pas besoin d'avoir une réponse spécifique. D'accord. Bon, aujourd'hui, il y a des pratiques comme Igrot Kodesh, etc. Mais bon, c'est déjà Igrot Kodesh. Il y a des gens qui demandent Igrot Kodesh, etc. au rabbi. Oui, il y a des réponses aussi, des choses qui existent. Mais
il ouvre le livre.
Il y a un goral qu'on appelle à l'époque, qu'on faisait à l'époque avec ce qu'on appelle le goral agra d'ailleurs, du Gaon de Vilna. Quand il y avait des choses que les Rami voulaient demander à Kadosh Baruch Hu et qu'ils ne savaient pas, ils prenaient une feuille, ils écrivaient dessus donc leur demande, ils mettaient dans un papier, dans un chumash, ils mettaient dans un chumash, et on considérait qu'il y avait des techniques particulières, la page qui s'ouvrait, on comptait un nombre de lettres, etc. Et on considérait que la réponse passait de manière aléatoire, et donc c'était pas aléatoire, que la réponse passait dans la page qu'on avait ouverte. On appelle ça le Goral Agra. D'accord ? Il y a des gens qui font ça aussi avec les lettres du Rabbi. Il y a des gens qui font ça avec les lettres du Rabbi. D'accord ? Et ils ont des réponses. Il y a même une application iPhone qui le fait. Bon, ça c'est un petit peu déjà limite. Mais pourquoi ? Quoi ?
Et ça c'est pas du hasard ?
Oui.
C'est ça, informatiquement. C'est une question des moudas.
T'as raison ?
Que ce soit un iPhone ou que ce soit
T'as raison, c'est vrai.
Un papier.
C'est vrai.
Ah mais si en plus.
Mais honnêtement, non,
c'est quoi 10 fois
de suite, t'auras pas même pas. Je dis pas, non, de toutes les façons, chez Chassidim, chaque fois qu'on a une réponse, chaque fois qu'on a une question à demander au rabbi, on la met dans un Igrot Kodesh. Toujours, on la met dans un livre du rabbi, d'accord. Et c'est pas forcément qu'on doit voir ce qui est écrit dedans. On la met dans un livre du rabbi, après on l'envoie par fax au rabbi. C'était comme ça depuis toujours, ça. Même quand on devait demander une bracha au rabbi, on mettait d'abord, j'étais à Paris, je voulais demander une bracha au rabbi, je vous envoyais un fax. D'abord, j'écrivais ma lettre, je la mettais dans un livre du rabbi, d'accord, et je me renferme un petit peu dans moi-même, je me concentre, et après je prends la lettre, j'envoie par fax au rabbi. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Maintenant, voir ce qui est écrit dans l'endroit où tu as ouvert, bon, il y a des fois des réponses extraordinaires, et même j'en ai déjà eu, mais bon. Mais je considère qu'il n'y a pas besoin de passer par là. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que quelque part, c'est peut-être une faiblesse de devoir en arriver là. Parce que si tu as vraiment une émouna, tu es persuadé que tu demandes à bracha au rabbi et le rabbi va s'arranger pour que ce que tu feras sera bien.
Oh, mais des fois, t'as...
De devoir avoir besoin d'avoir une réponse, d'avoir un signe clair, c'est quelque part un signe de faiblesse.
Mais des fois, ça D'accord peut concrétiser aussi un choix que tu dois faire. Parce que si t'as pas le retour,
c'est l'opposition entre le doute et la émouna.
Si tu n'as pas le retour, tu peux pas aussi savoir est-ce que tu prends le
oui, mais tu sais pas.
Le rabbi, il a laissé des consignes. Les consignes, c'est de demander conseil à un mashpia, de demander conseil à quelqu'un, de demander conseil au guide rassidique, de demander conseil à un rave, de demander conseil, et de considérer que la bracha passera par eux. Là, c'est ça le problème. Il y a des consignes. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui ressort du cours d'aujourd'hui, c'est qu'en vérité, par rapport à un tzaddik, lorsqu'il part de ce monde, il est encore plus présent D'accord ? Il est encore plus présent maintenant qu'avant. Seulement, le plus difficile, c'est pour nous.
Le rabbi, ça se voit, hein, parce que tout le monde disait, moi je me rappelle à l'époque, le rabbi est parti, tout le monde disait, Chabad, ça va s'écrouler, parce que. Parce que plein de gens disent des trucs violents.
Bon, Rochelle, on voit que c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est plus. Ça s'est amplifié à. Je crois aujourd'hui on est à. Aujourd'hui on est à 3000%, je crois, depuis la date de départ du Rabbi. Le nombre de représentations Chabad dans le monde s'est augmenté, je crois, de 3000%. Depuis 94, hein. Pas depuis le, depuis 94. Et d'ailleurs, on le voit, donc, quand tu vois la photo des Shluchim, tu le vois en 94, après tu vois chaque année, d'accord, c'est la grande photo dans le jeune. À tel point que maintenant, ils doivent amener des photographes spéciaux.
Oui, avec un grand angle.
Non, ça marche même plus, il n'y a même plus les grands angles maintenant. Ils sont obligés de prendre plusieurs photos.
Ah, parce que tout le monde
y a, le plus grand angle n'arrive pas. C'est pas possible, même avec un grand angle. Ils sont obligés de prendre plusieurs photos et faire après un assemblage informatique. Tu sais, avec les options panorama. Là.
C'est extra.
Extraordinaire.
Ben, ils ont qu'à prendre un Sony.
Bon, on continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le cours sera le 5 Tammuz. Après les lois du Rabbi. Je sais pas encore si je sais pas si je voyage encore. Parce que je pars en septembre, si tu veux, pour le. J'ai le mariage de mon beau-frère. Donc à New York. Donc je suis pas sûr que je vais aller maintenant. J'ai pas encore trouvé de.
Leilui Nishmat Moshe Ben Sol.
Leilui Nishmat Moshe Ben Sol, Shinistar Kayamazé. Voilà. On s'arrête.
L'histoire de la lettre.